Donc, comme j'ai dit, nous sommes dans Romains chapitre 8. Je vais diviser Romains chapitre 8 en trois parties. C'est trop d'informations pour son message. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie sur trois. C'est le message numéro 17 dans cette série. Et vraiment, à dire, Romains chapitre 8, c'est le point culminant dans l'épître. C'est vraiment le partie le plus haut. C'est la gloire du salut à travers l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, donc on va prendre trois semaines pour voir chapitre 8, mais par la suite, il y aura 9, 10, 11 qui va parler d'Israël, évangélisation, et puis par la suite, chapitre 12 jusqu'à la fin, c'est la vie chrétienne. Donc Dieu nous a sauvés pour servir. Donc, on n'a pas terminé l'évangile, je veux dire l'épître aux Romains au chapitre 8. Il aurait pu. Mais non, il y a un objectif. Et c'est pour que nous, les chrétiens, soyons les chrétiens. Et ça, c'est dans le chapitre 12 jusqu'à la fin. Donc, je vais faire très rapidement une révision comme introduction au chapitre 8, juste pour nous rappeler quel était le problème. Le problème, c'est premièrement, chapitre 1. Romains chapitre 1, la gravité du péché dans le cœur de l'homme et nos efforts pour nous éloigner de Dieu. Chapitre 3, tous, que ce soit des gens religieux ou irreligieux, sont pécheurs devant le Dieu Saint. Chapitre 5, on a l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile qui nous obtient la paix avec Dieu. Pas parce que nous sommes bonnes personnes, mais parce que Dieu, par sa grâce, nous a justifiés par la foi. Et cette justification est totale. Romains chapitre 6. Bien que la justification ne donne pas le droit à commettre le mal, elle n'a pas non plus, chapitre 7, elle n'a pas non plus enlevé la nature pécheresse qui est en nous, qui fait partie intégralement de notre humanité. Et donc là, on arrive à chapitre 8 qui va détailler l'assurance du salut. L'assurance qu'on voit dans l'épître de Jean, 1er épître de Jean, chapitre 1, verset 7, qui dit « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Pas la plupart de nos péchés, mais de tout péché. Donc, il y en a qui veulent dire que non, Dieu ne pardonne pas ce péché-là ou ce péché-là, etc. Mais dans le chapitre 1, il a mis tous les péchés. Et puis, il a nous a fait, à travers les premiers 7 chapitres, voir que Dieu a envoyé Christ pour mourir pour les péchés du monde entier. Et que par la foi, on reçoit la justification à travers l'Évangile. Et maintenant, on est dans le chapitre 8, et Paul va tirer sa conclusion. Chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation. Donc, on voit le chapitre 8 commence, et là, il y a un petit mot pour dire que Paul tire ses conclusions. C'est le petit mot là qui le mot traduit donc. Ce mot donc là, ça veut dire qu'il y a un processus et maintenant Paul il tire la conclusion sur la base de toutes les choses qui sont venues auparavant dans l'épître. Puisque nous sommes coupables et que le Fils de Dieu est mort à notre place, il ne peut plus avoir aucune condamnation maintenant que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes entrés en Jésus-Christ par la foi. Donc, le premier point, c'est que, voilà, selon cette conclusion, Paul, il va invoquer deux principes opposés qui sont à la fois spirituels et moraux. Premier, c'est la loi de l'esprit de vie. Et le second, c'est la loi du péché et de la mort. Donc, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est la loi de l'esprit en Jésus-Christ, ça c'est le premier principe, nous affranchit de cet autre principe, la loi de la mort, à cause du péché. Avant de croire en Jésus-Christ, nous étions tous enfants de colère. Et par cela, on veut dire méritant la colère de Dieu à cause de nos péchés. Nous étions donc destinés par cette colère à une mort spirituelle pour l'éternité, c'est-à-dire séparés de Dieu dans les souffrances éternelles. Par contre, le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix a payé la dette. Donc, il nous a affranchis de la mort éternelle. Maintenant, Paul nous rappelle, au verset 3, qu'étant dans la chair, dans notre humanité, nous n'avions aucun espoir. Mais là où il n'y avait pas d'espoir, eh bien, Dieu est intervenu pour nous secourir. Okay? Donc, verset 3. Car chose impossible, et là, il veut dire absolument impossible, à la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, était incapable de nous aider parce que la chair la rendait sans force. La loi était sans force parce que nous, dans la chair, on péchait. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire semblable, ça veut dire dans la similitude de notre humanité pécheresse, mais sans péché. Hein? Christ est venu exactement que vous êtes, mais sans cette nature pécheresse. Donc, on a déjà appris dans l'Épître aux Romains, la loi de Moïse n'a pas le pouvoir de vous rendre parfait. Elle ne peut pas le faire. Elle a seulement le pouvoir de mettre en lumière nos péchés et de mettre en lumière donc notre culpabilité. Par contre, par le moyen de l'incarnation du Fils de Dieu, le fait que Jésus est devenu un de nous, notre frère, donc, il était comme nous dans tous les points, sauf un. Il n'avait pas de péché. Et bien, comme ça, Dieu a appliqué contre son Fils la condamnation que méritent nos péchés. Il est mort sur la croix pour nos péchés à notre place. Verset 4. Et cela, afin que la justice ou l'ordonnance ou la sentence de la loi, donc la loi de Moïse toujours, de la loi, fût accomplie, soit pleinement satisfait en nous. Quand Christ était sur la croix, il a payé pour nos péchés. Et Dieu est absolument satisfait quant à chacun qui croit en Jésus-Christ. Il dit, nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit, ça veut dire nous qui sommes nés de nouveau. Donc logiquement, en conséquence du salut, le chrétien va vivre une vie chrétienne. On est né de nouveau et puis on se met en marche avec Dieu. Okay? Au sens éthique, le mot marcher dans ce verset parle de comment on conduit sa vie. C'est dans le sens de nos mouvements extérieurs, c'est ce que les gens voient. Alors, Paul va revenir à ce sujet-là dans le chapitre 12 jusqu'à la fin du livre. Okay? Ce n'est pas le sujet ici. Okay? Il va revenir, c'est très important, la vie chrétienne, donc il va passer 4 ou 5 chapitres pour parler de ça. Donc, le troisième point de Paul ici, c'est qu'il va présenter, toujours selon cette conclusion, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est que devant nous, il y a un choix à faire. Les chrétiens, vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. C'est deux orientations d'esprit différentes. Selon la chair ou selon l'esprit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc notre manière extérieure de vie va montrer globalement ce qui est à l'intérieur de notre caractère et dans nos pensées, notre vie intérieure. Un peu comme Alexandre a dit, une fois qu'il a cru en Jésus-Christ, il a changé de vie, et bien que ses parents avaient vécu d'une certaine manière qu'il ne voulait pas faire, mais il a quand même reconnu la même chose jusqu'à sa conversion. Et puis il a raconté par la suite sa vie chrétienne, et puis maintenant ses propres enfants ne voient pas la même chose qu'il a vu quand il était enfant. Parce qu'il a un intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Changement complet. OK? Donc voilà. Là où le mot « marcher » dans le verset 4 parle plutôt de notre vie extérieure, le mot « s'affectionne » parle plutôt de notre vie intérieure. Donc ce mot « s'affectionner » parle de notre compréhension, notre faculté de penser, notre disposition mentale, et donc le fait que nous allons mettre notre affection sur quelque chose. C'est comme ça pour tout le monde. On aime ceci, on n'aime pas cela. Okay? On s'affectionne, on aime. Question, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Aimez-vous les choses totalement humaines, les choses terrestres, matérielles, émotionnelles, économiques, etc.? Vous vous affectionnez à ces choses-là? Ou aimez-vous les choses touchant l'éternité? La joie, la paix, le service d'autrui, la communion fraternelle, ces choses-là qui sont de l'intérieur, qui touchent Dieu. Verset 6. Et l'affection, et c'est toujours, quand on dit l'affection, maintenant c'est toujours le même mot, d'accord? Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire, quand on s'affectionne, on aime les choses de ce monde, et bien ça aboutit à la mort. C'est que pour ce monde ici-bas, ok? Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc ça aboutit à la vie, à la paix, et à, encore plus, on bénéficie déjà ici-bas de ce qui est de Dieu. Okay? Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Toujours la loi de Moïse là. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne peut même pas. Elle ne peut pas. Okay? La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Or, tout le monde sait que notre temps ici, sur la terre, est compté. On va vivre X années et c'est fini. Okay? Tout est passager. Donc, si vous remplissez vos cœurs du temporaire, de ce qui est temporaire, ce qui est de la terre, eh bien cela signifie qu'il n'y a pas de place pour l'éternel. Il n'y a pas de place pour le Dieu éternel. Ne pas donner la place, je veux dire la première place à Dieu, revient à cette inimitié, à cette hostilité, à l'aliénation vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Dieu, il doit avoir cette première place dans nos vies. La première place dans nos vies est due à Dieu, dans nos pensées, dans nos affections, nos activités, nos dépenses de temps et d'énergie et de l'argent. Tous, Dieu doit avoir la première place. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Pour dire que dans la chair de notre humanité pécheresse, il n'y a aucune puissance pour se soumettre à la loi de Dieu. La chair est impuissante quant à une vie spirituelle et une relation avec Dieu. Dans la chair, personne n'a la capacité ni de se soumettre à la loi de Dieu, ni de plaire à Dieu. Jésus a enseigné cette même chose dans Jean chapitre 17 et verset 25. Là, Jésus dit, donc c'est Jean chapitre 17, verset 25-26, il dit, « Père juste, le monde ne t'a point connu. » C'est la même chose. Hein? « Comment plaire à une personne que vous ne connaissez pas du tout ?» Vous allez savoir comment plaire à une personne parce que vous avez une relation, vous passez du temps avec cette personne, vous allez apprendre à plaire à cette personne. Mais moi, Jésus dit, je t'ai connu et ceux-ci, donc en parlant de ses disciples, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et quand il dit ça, Jésus parle de cette relation paternelle. Donc il a enseigné comment prier. Notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? Donc Jésus parle de cette relation avec Dieu et le croyant, entre Dieu et le croyant, par lequel nous allons prier comment? Abba, Papa, Père. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Cet amour que Dieu a pour son Fils soit en nous et que je sois en eux. OK? Donc, par cet amour qui est en Jésus, que Jésus met en nous, eh bien, nous allons pouvoir plaire à Dieu. C'est ça qu'il veut dire là. Bon, Jésus dans l'Évangile dit différemment que Paul le dit dans l'Épître, mais c'est la même chose. Paul insiste sur l'impuissance de la chair, notre humanité, la religion, la philosophie, toutes ces choses matérielles, impuissantes. Il dit dans le verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ok? Et donc, ce mot « plaire » signifie faire plaisir avec l'idée de service volontaire rendu à d'autres. Donc, ici, ça veut dire rendre service à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair n'ont aucune idée comment plaire à Dieu, comment rendre service volontairement à Dieu. Et donc, par l'expression « ne saurait plaire à Dieu », Paul dit que, selon notre humanité, personne n'a la moindre idée de ce que veut dire servir Dieu, et encore moins la force de le faire. Jésus parlait encore de cela dans Jean chapitre 15. Vous pouvez suivre si vous voulez, hein? Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Jean chapitre 15, verset 1, Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pieux à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. » Donc, l'idée, c'est que le sève, qui n'est pas mentionné dans cette histoire, mais le sève, c'est le Saint-Esprit. Quand on a cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en nous. On va voir ça un peu plus dans le message. Et par le sève qui est en nous, eh bien, Dieu porte du fruit. Mais on ne peut pas porter du fruit si on se coupe, on vit dans la chair, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne va pas porter du fruit pour Dieu. C'est seulement attaché à Jésus. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et puis, il va dire quoi? Que ma parole demeure en vous. Très important. On va revenir sur cela. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, c'est intéressant, en rapport avec ce que Paul a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'on ait le Saint-Esprit agissant à travers nous pour qu'on puisse faire quoi que ce soit qui plaise à Dieu, pour servir Dieu. Paul se tourne maintenant vers les enfants de Dieu pour nous dire, la puissance n'est pas en chair, mais en esprit. La puissance a sa source dans le Saint-Esprit. C'est au verset 9. Pour vous, donc il parle à nous, bien sûr, les croyants nés du nouveau, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et il continue, si du moins, ou en effet, si en effet l'Esprit de Dieu habite en vous, si c'est le cas que l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est-à-dire n'importe qui peut lire la Bible. Et ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible qui est déjà né du nouveau. Hein? C'est au moment qu'on croit en Jésus-Christ que ça devient la réalité. Tandis que non-croyant qui lit ça, ben, non, ce n'est pas une vérité à ce sujet. Que quand il a cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit commence à habiter en lui, et là, oui, on commence à vivre selon l'Esprit. Pour nous qui ont cru en Jésus-Christ, frères et sœurs, nous, le Saint-Esprit est déjà en nous. Si vous êtes sauvés, l'Esprit de Dieu réside en vous et il va demeurer en vous pour l'éternité. Et donc, première chose, non seulement êtes-vous justifiés, et non seulement il n'y a plus aucune condamnation, mais aussi l'Esprit de Dieu qui habite en vous, l'Esprit, il vous donne l'autorité de vivre sur un niveau superhumain, au-delà de ce qui est naturel pour l'être humain, c'est-à-dire d'une manière qui lui plaît. Cette autorité revient à la parole de Dieu, à la parole de Christ qui doit demeurer en nous. Nous devons connaître la parole de Dieu afin que le Saint-Esprit puisse nous enseigner les voies de Dieu. Tout ça travaille ensemble. Donc, pour terminer avec cette pensée, Paul dit, à la fin du verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Littéralement, il n'est pas à Christ. Ok? À bien comprendre, être sauvé est synonyme de recevoir l'Esprit de Christ et cela pour l'éternité. Ne pas avoir l'Esprit revient à ne pas être sauvé. Soit on est sauvé, on a l'Esprit, soit on n'est pas sauvé, on n'a pas l'Esprit. C'est seulement par le Saint-Esprit qui habite en nous que nous sommes capables de vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu. Pierre dit dans Actes chapitre 2 que l'on reçoit l'Esprit quand on croit en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la personnification du salut. Il est l'art du salut, c'est le garant du salut. Enfin, ayant parlé de l'Esprit qui est déjà en nous, donc aujourd'hui le Saint-Esprit est dans chacun de nous qui sont sauvés, okay? Nés de nouveau, eh bien Paul proclame que ce même Esprit va redonner la vie à nos corps au jour de la résurrection. Un jour, si le Seigneur ne revient pas, bien sûr, on va tous mourir. Eh bien, Dieu va redonner la vie à notre esprit le jour de la résurrection. Il va nous ressusciter. Donc verset 10. Et si Christ est en vous, et c'est le cas pour ceux qui croient en Jésus-Christ, eh bien le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ça c'est Romains chapitre 7. Mais l'esprit est vie à cause de la justice, et ça c'est les thèmes dans Romains chapitre 4 à 6. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et c'est le cas, eh bien, celui qui a ressuscité Jésus, Christ, d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Parce que nous allons tous mourir. La vie, nos corps mortels, ça veut dire que nous, dans nos corps, on va vieillir, on va avoir un accident dans la voiture, et on va mourir. Après, il va rendre la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Ça, il parle du jour de la résurrection. Donc, je souligne, il habite en nous. Et il est avec nous, Jésus a dit, éternellement. Donc, il ne va pas nous oublier. OK? Okay? Par ce verset 11, nous voyons l'importance que Dieu donne à votre personne entière. Non seulement votre âme et votre esprit, et c'est souvent on pense que à ça, que nous avons un esprit et une âme, mais aussi votre corps. L'âme et l'esprit ont déjà été vivifiés depuis que vous avez cru en Jésus-Christ. Mais votre corps, votre humanité, n'est pas encore restauré. Vous êtes toujours pécheur. Vous luttez toujours, Romains chapitre 7. Mais on a la victoire quand on marche avec l'esprit. Paul a crié, vous vous souvenez, dans Romains chapitre 7, verset 24, à la fin, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» On attend. Grâce à Jésus-Christ, à la fin, Dieu vous sauvera entièrement, âme, esprit et corps. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24, Paul l'a dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, donc il dit l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, pour que vous ayez confiance en lui, il va dire, c'est celui qui vous a appelé, il est fidèle. Et il dit encore, c'est lui qui le fera. Donc Dieu s'occupe de vous. Il ne vous relâchera pas. Voulant rassurer ses disciples de sa fidélité envers eux, juste avant sa mort, Jésus a parlé au sujet de son départ, de l'envoi du Consolateur, et aussi de sa préparation pour nous pour une place au ciel. Okay? Écoutons donc Jean chapitre 14 à 17, il parle de ces choses-là, mais je vais lire simplement Jean chapitre 14, verset 16. « Et moi, Jésus dit, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Donc Jésus était le consolateur avec eux jusqu'à ce moment-là, mais il allait mourir et partir au ciel. « Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Dans le monde, dans la chair, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais en croyant en Jésus-Christ, oui, on peut le recevoir. On le reçoit au moment de croire. Parce que le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc Jésus dit, quand il va partir, mais il va revenir par le moyen de son Saint-Esprit qui va mettre en nous, qui va faire venir de la part du Père. Donc une petite révision. Depuis que vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu vous a déjà donné son Saint-Esprit. Donc si vous êtes là ce matin et vous n'êtes pas croyant, bien sûr, vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais vous pouvez croire en Jésus-Christ et Dieu va vous sauver. À ce moment-là, il entre dans votre être par le moyen de son Saint-Esprit. Donc Dieu déjà habite dans le croyant. Le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, fait vivre votre esprit. Plus tard, il va faire vivre votre corps, okay, la résurrection. Mais maintenant, il vous rend capable de vivre pour Dieu, de servir Dieu, de plaire à Dieu. Et ça, c'est important. Amen.